Bonjour à tous, bienvenue aux lecteurs sous les toits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir près de moi Alphonsine, Nelly, Robert, David et Nathanaël. Le mardi dernier, nous avons reçu au comité de lecture Pierre Ducrozet, qui est l'auteur en résidence à Manosque, invité par les correspondances et par la ville de Manosque. Et Pierre est venu nous parler de ses livres et des livres qu'il aimait. Donc, cette émission sera consacrée en partie à Pierre Ducrozet et en partie aux livres que les lecteurs ont choisi de vous présenter au dernier comité de lecture. Nous vous présenterons aujourd'hui Requiem pour Lola Rouge de Pierre Ducrozet, paru chez Grasset, A Saïra de Denis Lachaud, présenté par Robert, La vie qu'on voulait, présenté par Sylvie et Nathanaël, Une très belle jeune femme de Julien Lopez, présenté par David. Alphonsine présentera D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Nelly, un vieux livre, Le petit arpent du bon Dieu d'Erskine Caldwell. Et enfin, nous terminerons par Héroïka, présenté par Nathanaël, Héroïka de Pierre Ducrozet. Requiem pour Lola Rouge est le premier livre écrit par Pierre Ducrozet, ce jeune auteur de 32 ans, qui est donc venu nous rendre visite. C'est son premier roman qu'il a publié en 2010. Donc, Requiem pour Lola Rouge, c'est un livre sur la jeunesse. P, le narrateur, vit de petites magouilles et un jour, il rencontre la belle Lola qui l'entraîne dans des pays lointains. Mais Lola est-elle un rêve ou est-elle réalité? Les deux amants vont fuir le monde terne, le monde quotidien et terne, pour aller d'une partie du monde à l'autre partie du monde. Un jour, Lola va disparaître à Saïgon, et là, les ennuis vont commencer pour P. P comme Pierre, peut-être, Pierre Ducrozet, ou P comme Patrick, on ne sait pas trop. Donc, avec Nathanaël, nous allons vous lire quelques extraits de ce Requiem pour Lola Rouge. Peut-être le début qui vous présentera, qui vous campera un petit peu le personnage.
J'en étais alors à me regarder pousser les cheveux. Le soleil commençait à m'emmerder sérieusement et la pluie aussi. Je m'étais spécialisée dans le cynisme, bon marché et le chapeau négligé. J'en avais des dizaines, des gris, des mous, des recourbés. J'étais dans mon domaine, j'aurais presque gagné ma vie avec. Je traînais sur les grands boulevards, dans les anciens faubourgs, je vivais de petites magouilles, de tourne-la-rue. Si on ne me voyait pas aux terrasses, c'est parce que mon café, je le buvais moleskine, le bras sur la banquette, m'entortillant la barbe à la lecture inattentive des quotidiens. Paris commençait à me donner la nausée, ses faux airs, ses rues blanches. Bien sûr, je n'en montrais rien. Je faisais comme si, comme tous. Je marchais, main dans les poches, à l'aise, furieusement à l'aise, les gestes lents, mesurés, toute la panoplie. J'habitais sous les toits, dans une chambre mal fagotée de la rue des Martyrs. L'enseigne me convenait. Un candisqui jauni pendait au mur de l'entrée. Je ne savais que faire. Je photographiais parfois les rues prises dans le froid et puis je remontais les étages, les mains comme des pains lourds. Ça ou autre chose. Un ami m'avait passé un livre, « Les chants de Mal d'Aurore ».« Tu verras », m'avait-il dit. J'avais vu. Ça m'avait cramé des circuits. Les mots, des vipères. J'en finis par le déchirer, ce foutu bouquin, une nuit d'hiver à s'en insquinter la vie. Page par page, oui, jusqu'à le jeter, ensanglanté, dans un coin de l'appartement. Je le laissai là et sortis, un sourire aux lèvres.
Je dormais peu et surtout le jour. J'aimais me glisser sous les draps à l'heure où Paris s'éveille, s'agite comme une mouche prise au piège. Puis, lorsque la ville tombait de fatigue, moi, j'ouvrais les yeux et m'en allais traîner dans les eaux troubles à ma lueur. Donc on voit que le personnage vit un petit peu de, de Magouille. Et nous allons vous lire sa première rencontre avec Lola, la mystérieuse Lola.
La première fois que je vis Lola, ce fut une nuit, égale à toutes, une nuit de lune basse et de rêves profonds. Je marchais, je crois, entre les ruelles inclinées d'une ville, comme absorbée par la brume. Je tournais en rond, sans but, livré à l'obscur. Un poteau, une impasse, une main. Je suis dans un salon, dans une chambre, devant elle.
Elle est brune, cheveux courts, des grands yeux ouverts, malicieux. Elle me prend la main, une vague de chaleur dans mon corps. Je suis brusquement dans ses bras. Sa peau, fleuve, mauve, douceur, tout est là. Puis tout se retire et le matin sale s'étale aux fenêtres, buée sur la vitre, le monde. Là, on a l'impression quand même que Lola est un rêve, hein, il la rencontre dans un rêve. Et puis un jour, j'avance. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Un angle de rue, une sensation, quelque chose. Je tourne à l'angle, un bar, je regarde. Une fille, attablée, s'enroule dans sa cigarette. Et c'est elle. Ce n'est pas possible. Et pourtant, si. Je la regarde dans la lumière orange. Ses cheveux se dressent vers le lustre. Elle se penche au-dessus de sa tasse. Elle fume. Je n'ose pas rentrer, mais si je m'attarde devant la vitre, je vais me faire remarquer. Je pousse la porte. Elle lève les yeux, le barman aussi. « Un café, s'il vous plaît. » Je m'approche. « Bonjour, je te connais, lui dis-je. » C'est absurde, je pense.
« Ah oui. »
Une voix bleue, décidée, je m'assois. « Je t'ai vu dans mes rêves. Tu passes et tu ne reviens pas. »«
J'ai des choses à faire. » »«
Je comprends. Et où vas-tu au matin ?»«
Ça dépend. Ou je reste un peu plus longtemps, ou je me glisse par la fenêtre. Tu veux une clope ?»«
Oui. »
Elle rigole. Encore un fou, certainement. Elle met une main dans ses cheveux. « Vous êtes tous fous, de toute façon. »« Tu es de Lisbonne ?»«
Je ne sais plus. J'oublie presque tout en ce moment. Et toi ?» Je suis venue pour le mariage de ma sœur et je suis partie ce matin. Je n'en pouvais plus.
Tout ce blanc, ça éblouit.
Exactement. Un peu de bleu apaise. Bruit de tasse, de soucoupe.
Et je suis belle dans tes rêves?
À peu près comme maintenant. Étincelante. Trop peut-être.
Trop?
Oui, ça fait mal aux yeux et on se demande si... Et le temps qu'on comprenne, il est trop tard.
Touche ma main, tu verras qu'elle est bien réelle.
Je l'effleure. Je te crois maintenant.
Ah, tu vois?
Un autre café?
Oui, j'aime bien l'odeur.
Le serveur remplit nos tasses. Bessie Smith chante au-dessus des bouteilles d'alcool. Mes mains tremblent légèrement. Des gens passent derrière la vitre, des sacs à main, ou pas. Elle fume. Sa main droite est dressée, immobile au-dessus du vide. Je la regarde, je ne comprends pas.
Au fait, moi c'est Lola, Lola Rouge. Et toi?
P.
Ah bon?
Eh oui.
Elle sourit. Tu avais disparu ces derniers temps.
J'étais en voyage. Alors cette mystérieuse Lola, hein, il va la recroiser encore une fois, plusieurs fois. Elle va l'emmener de pays en pays. Ils vont aller à Lisbonne, ils vont aller à Barcelone, ils vont aller un peu partout. Tout ça par des portes. Alors on ne sait jamais si on est dans le rêve ou dans la réalité. C'est un récit assez onirique. C'est une fuite aussi. Cette façon de partir comme ça. Et donc le narrateur va fuir avec elle. Mais un jour, à Saïgon, ils sont dans une chambre d'hôtel et elle va disparaître. Et là, notre narrateur va vraiment avoir de gros ennuis. Et là, il va connaître les prisons. Alors, c'est une métaphore. Il va connaître les prisons au sens propre. Mais il va peut-être les connaître aussi au sens figuré parce que pour lui, la vie est une prison. Et donc, il va être obligé de fuir aussi après ces périodes de prison. Enfin, c'est un roman assez mystérieux. C'est un roman mystérieux. Je trouve que ça... Enfin, voilà, c'est à découvrir. C'est son premier roman. Et dans ce roman, on retrouvera les thèmes qui lui sont chers dans les deux romans qui suivront. On verra tout à l'heure. On vous présentera deux autres livres de Pierre Ducrozet.
Je vais vous présenter le dernier roman de Denis Lachaud, Assaïra, paru en 2015 aux éditions Actes Sud. Denis Lachaud est très éclectique. Il a écrit donc déjà 7 romans. Il est aussi homme de théâtre, aussi bien en tant qu'auteur, metteur en scène et même comédien. Son dernier roman, donc, Assaïra, se déroule entre 2016 et 2037. En 2016, Antoine, le personnage principal, encore un Antoine, vous êtes en train de vous dire, fidèles auditeurs de notre émission. En effet, le mois précédent, vous en souvenez bien, dans le roman que j'ai présenté, la renverse, d'Olivier Adam, le personnage principal s'appelait aussi Antoine. Mais revenons au roman de Denis Lachaud. Donc, Antoine, en 2016, participe avec le groupe révolutionnaire Ventose à l'enlèvement puis à l'assassinat du président de la République. Il pensait que par cet acte, le peuple s'insurgerait contre le pouvoir en place qui réduit considérablement les acquis sociaux et met en difficulté les services publics. Mais cette action du groupe Ventose est un fiasco total. La population se rallie aux responsables politiques de tous bords qui forment une union sacrée pour défendre la République en danger. Le groupe Ventose constate l'échec de l'opération et se met en sommeil. En fait de sommeil, ils vont se faire arrêter les uns après les autres et se retrouver en prison pour de nombreuses années. Antoine va y rester 21 ans. Et pour lui, là je vous lis le premier extrait, le plus dur, donc en prison, le plus dur revient quotidiennement après le repas du soir. La nuit est tombée. La longue journée traversée à l'aide des séances d'exercices physiques et mentaux. Et même si son corps a pris une forme qu'il ne lui a jamais connue, forme musculeuse qu'il sent de l'intérieur comme une nouvelle enveloppe, solidité inconnue, confortable et rassurante, même si sa volonté lui semble maîtriser comme jamais le cours de sa pensée, ses émotions jusqu'à son humeur, Antoine ne peut s'empêcher, à cette heure avancée où il ne voit plus comment s'occuper pendant qu'il attend d'être gagné par le sommeil, de penser jour après jour que sa vie n'est rien d'autre qu'une réalisation concrète du plus angoissant des cauchemars de son enfance, la mort telle qu'il l'imaginait, une mort éveillée, enfermée dans un cercueil, enterrée et condamnée à s'ennuyer pour l'éternité. Donc je termine cet extrait, mais il va quand même tenir le coup en prison, et notamment aidé en cela par sa fille Rosa, qui va venir le voir une fois par semaine en prison, et cela va durer 21 ans. Donc, en 2037, il sort de prison, et donc là, je vous lis un deuxième extrait à sa sortie de prison. Aujourd'hui, mercredi 14 janvier 2037, me voilà seul à l'aube, debout sur le trottoir de Paris, 21 ans plus tard. Je me suis battu toute ma vie. Je me suis élevé contre l'exploitation. J'ai souhaité l'avènement d'un autre monde. Je me suis donné les moyens d'en approcher. J'ai échoué. Je me suis alors battu pour survivre, pour ne pas perdre la raison. J'ai entraîné mon corps pour accroître sa puissance, sa force de résistance. J'ai appris la patience. J'ai tenu 4 ans à l'isolement et 17 ans dans l'espace exigu de la cellule partagée. J'ai attendu qu'on daigne m'ouvrir la porte. Aujourd'hui, je suis dehors. Le monde s'ouvre à moi et je peine. Je dois avancer patiemment. Je dois repousser chaque jour un peu plus les frontières qui serrent encore mon esprit dans son étau. Voilà ma nouvelle bataille. Je ne lâcherai pas. Donc, à sa sortie de prison, il est accueilli par sa fille qui vit en colocation avec son ami d'enfance, Rufus. Voilà donc comment se passe cette première soirée. Rosa s'est installée sur l'accoudoir du fauteuil près de son père. Elle est troublée par sa fragilité, son teint de porcelaine. Elle voudrait le protéger de la violence du choc. Elle ne sait comment s'y prendre. De l'autre côté de la table basse, Rufus ne quitte pas Antoine des yeux, fasciné par le mort-vivant qui vient de surgir. Antoine intervient. « Racontez-moi ce qui a changé en 20 ans. Dites-moi ce que je dois savoir sur le monde. Je n'ai rien suivi. » Rosa se lance. « La Chine est la première puissance du monde. L'Inde et la Russie ont rattrapé les États-Unis. Le Brésil pointe son nez. L'Europe est un Eldorado fané. Elle s'accroche à son histoire pour exister sur la scène internationale. Un gigantesque site touristique, un musée, un continent poussiéreux qui ne parvient toujours pas à s'extraire de son vieux paradigme colonialiste. Nous sommes 9 milliards sur Terre. Nous comptons sur les familles, les famines et les massacres pour réguler la population. Les mouvements migratoires se sont accentués. Le monde riche a radicalisé ses stratégies de protection contre l'envahissement des pauvres. En la matière, l'Europe est à la pointe du progrès avec l'invention des zones de séjour temporaires. Fini les centres de rétention, trop petits. Désormais, nous parquons les migrants dans des quartiers délabrés en bord de ville et nous construisons des remparts autour. C'est le Moyen-Âge à l'envers. Et la France, demande Antoine. En résumé, 20 ans de tensions sociales, de crises qui se succèdent. L'État s'est désengagé de tout au profit du privé. Enrichissement des riches, appauvrissement des pauvres comme partout. Les progrès informatiques ont dévoré la classe moyenne, précarité généralisée. Chacun s'emploie à survivre. Voilà donc comment est l'état de la France. Les inégalités donc ont fortement augmenté, la faillite sociale est très grande et par exemple à Paris et dans les grandes villes, il est impossible de se loger. Mais le temps de la révolte ne passe plus par la violence. Une autre époque de l'engagement s'est ouverte, celle du passage à l'acte citoyen. Et dans cet esprit-là, Rosa et ses amis montent une action citoyenne au niveau des Champs-Élysées. Je vous en lis un extrait à ce sujet. Le lundi 29 juin 2037, à 2h03, ils plantent leur tente sur les Champs-Élysées. Se lancent avec eux 66 internautes repérés par Rosa sur YouMeUs, étudiants, chômeurs ou jeunes salariés en situation précaire, excédés par la recherche infructueuse d'un appartement décent à un prix abordable, à bout de force pour la plupart. Après des mois de courses effrénées contre les études et les jobs mal payés, saignés à blanc par le loyer du bouge dans lequel ils survivent. Tout a été préparé à l'avance par SMS. Chacun sait à quelle heure précise déplier son abri sous les arbres du jardin public entre Champs-Élysées-Clémenceau et la place de la Concorde le long de l'allée Marcel Proust. Par vague de 5, selon un planning organisé par Rosa, une vague toutes les 15 minutes de 2h à 6h du matin environ. Un journaliste de WTV les suit. Ils ont alerté plusieurs organes de presse indépendants pour se prémunir d'une évacuation manu militari. Alors, comment faire les autorités ? Comment faire les autorités de cette situation ? Le préfet de Paris arrive sur les lieux à 8h40. À 8h40. Il a une longue conversation avec le commissaire divisionnaire et le préfet conversation téléphonique avec le ministère de l'Intérieur et cela conduit le préfet à déclarer aux forces de l'ordre qu'il est malheureusement déjà trop tard pour lancer une opération d'expulsion des manifestants et de nettoyage du site, que les scanners révèlent la présence de plusieurs organes de presse importants et de 5 caméras professionnelles. C'est parti, advienne que pourra. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comment va réagir l'opinion publique ? Le pouvoir en place sera-t-il ébranlé ? À vous de le découvrir en lisant ce livre passionnant qui peut-être donne une idée de ce que sera la France dans 21 ans. Ce n'est pas si loin que ça. Donc, rendez-vous dans 21 ans. Je vous rappelle le titre de ce roman au personnage très attachant, Assaïra, de Denis Lachaud. Merci pour votre écoute.
Voulait est le deuxième roman de Pierre Ducrozet, qu'il a publié toujours chez Grasset en 2013. Au sortir d'une jeunesse bercée par la Beat Génération et des idéaux pleins de poésie, on va nous parler de la désillusion qui frappe un groupe d'amis à l'aube de la trentaine. C'est un livre amer. Ensemble, les amis vont... Ils ont chacun vécu leur vie et un événement va les amener à se retrouver. Quelques-uns vont se retrouver. Je vais vous lire avec Nathanaël le début du roman.
Les morts pourraient pas rester où ils sont ? Demande Lou à haute voix. Le chauffeur de taxi ne répond pas. Vous allez où ?
À l'hôpital Saint-Louis, dit-elle. Il démarre.
C'est toujours la même histoire. Vous prenez votre café, vous remuez la cuillère sans y croire. Les collègues parlent de l'après-midi à venir ou peut-être bien du dernier film d'Almodovar. Un mélodrame magnifique. J'en ai pleuré. L'actrice est sublime. Quand votre téléphone vibre au fond de votre poche et ce n'est ni votre chef ni votre amant, c'est un numéro inconnu. Vous décrochez.
Une voix de jeune femme vous parle et vous ne comprenez pas bien. Vous sentez juste que votre cœur accélère sa marche militaire alors que le café n'a pas eu raisonnablement le temps de descendre jusque-là. Vous vous levez, vous n'aimez pas parler à côté d'autres personnes. Et ça se complique assez vite. Un revenant. Les morts font ce qu'ils peuvent et c'est déjà trop. Vous raccrochez, vous bandouillez quelques mots à vos collègues, puis vous approchez de la porte vitrée. Une fois dans la rue, vous appelez votre chef, un problème, oui, vous ne viendrez que plus tard, désolé. Votre main se lève, un taxi s'arrête, vous dedans et en route.
La voiture dépasse la Seine, gonflée comme une outre. Manel. Tu l'avais oublié, celui-là. Lui aussi, sans doute, mais pas tant que ça. Le seul numéro qu'il s'est trouvé sur lui était le tien. C'est malin. On dépasse le palais de justice, la conciergerie, et tu penses surtout au cuir noir sous tes fesses. Il était mort pour toi, mais ça avait pris du temps. Te voilà dans un taxi alors que des dossiers frémissent sur ton bureau au 4 rue des Prêtres Saint-Séverin. Tu ne t'énerves pas, tu ne râles pas, tu souris. Quelle surprise me réserves-tu encore ? Un cancer foudroyant, un accident de trottinette, une overdose ? Le boulevard Queen, tu t'ennuyais, tiens.
Eh bien voilà. Manel est allongé dans la chambre 38, le regard fixé sur le bout de ciel qu'un Vélux percé dans le toit laisse apparaître. C'est sympa ça, un Vélux dans un hôpital. J'avais jamais vu. Tu dis « Salut », pas de réponse. Manel, c'est moi. Il ne bouge pas. Très bien.
Tu t'approches. Il est allongé. Pas un mouvement. Il regarde. « C'est beau ?» tu demandes. « Rien. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'as encore glissé ? T'es tombé ?» Bon, il cause pas, il a l'air en forme, pourtant la barbe mal taillée, les cheveux en bataille, rien de bien anormal. Et puis les yeux noirs plongés dans le bleu. Tu l'observes encore un peu et tu sors. Une infirmière t'explique.
On l'a retrouvé au petit matin, inanimé, sur les berges. On l'a amené ici. Sur lui, presque rien. Des papiers, un numéro griffonné dedans, le tien. Pas de portable, de l'alcool dans le sang, du sang sur la chemise, une chute ou peut-être pas. On t'a appelé. Vous vous connaissez donc ?
Oui, oui.
Tu passes une main dans tes cheveux que tu portes mi-long, les doigts glissent sur ta joue et retombent sur ton pantalon noir. Tu retournes dans la chambre 38.
Manel, j'ai pas que ça à faire, alors dis-moi, c'est quoi l'idée ? Venir m'emmerder, t'approcher de ton précipice chéri ? Moi, tu sais bien que tes conneries me fatiguent et depuis longtemps déjà, tu as dû frapper à la mauvaise porte. Soit tu causes, soit on remballe.
Un cumulostratus s'accroche au velux, ça l'absorbe. Comme tu voudras. Tu claques la porte.
Donc là, on va quelques pages plus loin. On retrouve Lou, donc la jeune femme. Allô ?
Mademoiselle Santenac ?
Oui.
Ici la brigade criminelle de la région Aquitaine. Nous vous appelons dans le cadre de l'enquête que nous menons sur le meurtre de deux personnes. Un des suspects se nomme Manel Bassol. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?
Oui.
Pourriez-vous répondre à quelques ?
Oui.
5 minutes plus tard, Lou se lève et s'en va chercher une poire. Elle aime bien les poires. La peau est rugueuse, mais ça pique sous la langue. Le con, pas fini de m'emmerder ? On rogne jusqu'au bout dans la chair blanche et on jette la relique pantelante. Et maintenant, quoi ?
Manel sourit. Il a placé les pièces ce matin pour voir où il en était. Et ça a de la gueule. Rien n'est fait, bien sûr, mais bon, ce pion qu'il a pris hier avec son cavalier lui ouvre du champ. les pions sont des primates sans intérêt qu'il s'agit de faire tomber avant qu'ils ne prennent de l'importance. La femme a à peine gémi. La balle était bien placée, rien à dire. Le crâne transpercé net, une très légère éclaboussure. Il a regardé des deux côtés, personne. Il a filé. Il observe le plateau. Son fou est au milieu qui balaie les diagonales. Donc là, on voit que Manel considère la vie. Manel a pété les plombs, comme on dit vulgairement. Il tue quand il joue aux échecs et selon le déroulement de la partie, il va tuer des gens. Donc voilà, c'est à l'occasion de ce fait divers tragique que les cinq amis vont se retrouver. Ils avaient vécu à Berlin ensemble et là ils vont essayer de retrouver Manel, ils vont essayer de se retrouver, de retrouver retrouver un peu leur jeunesse. Donc c'est un roman intéressant. Il y a un passage que j'aimerais bien qu'on vous lise aussi, qui est très très actuel, hein, sur la difficulté des jeunes à s'insérer dans la société. Non, dit Théo après un silence. C'est décidé, je vais m'en remettre à la solution universitaire, je vais travailler.
Elle rit. Souviens-toi. Elle lui rafraîchit la mémoire. Et alors oui, ça lui revient. Ses boulots d'intérimaire, ses passages à la caisse, à l'usine de saucisses, rayon emballage, le plastique bien droit et hop, on enfourne. Et puis ces deux années d'études poussives, sociologie, non, finalement histoire. Bon Dieu, les banques claquent quand on les referme. La fille de la cafétéria est plus excitante qu'Himmler. Un café, oui, le quatrième. Une licence quand même, à l'usure. Et puis sonner les cloches, ce fut l'heure glorieuse des stages. Bibliothèques, associations culturelles, organismes régionaux, gestion des fonds publics et des pochettes cartonnées, les chambres étroites et le chauffe-eau qui siffle. Et puis un stage avait débouché sur un CDD de 3 mois. Miracle, ennui, conversation de couloir avec collègues fascinants, s'asseoir sur une chaise, se lever, s'asseoir à nouveau, s'allonger, et entre les stations des dossiers à classer, des choses à écrire dessus, des rapports à rédiger, une vie à remplir. Il avait finalement choisi de la dégonfler lentement comme un ballon d'anniversaire, de CDD en RMI, puis RSA, des initiales et quelques ronds pour tenir le coup. Et c'est tout.
Bon, d'accord, on est une génération blablabla. Bla, bla. Le travail nous emmerde et de toute façon, il n'y en a pas, etc. Mais merde, regarde tous ces gens, ils sont heureux. C'est pas une blague, ils produisent, gèrent, déplacent, renversent, constatent et rentrent chez eux éperdus, essoufflés, s'affalent dans leur canapé. Ils sont repus. Ils offrent leur corps à la machine sociale qui, au retour, leur offre une plénitude en papier cadeau.
Et c'est pas ton lot.
Génial.
Pas de quoi être fier, je sais. Sans compter qu'au niveau économique, ça rapporte peu, cette histoire.
Très peu, pense Théo, avant de déserter vers les bords de route. Donc on voit cette jeunesse un peu perdue. Et c'est un roman très actuel, qui reprend les thèmes de prédilection du premier roman. Et on verra tout à l'heure... qui seront aussi repris dans Eureka. Donc c'était La vie qu'on voulait de Pierre Ducrozet.
Une très belle jeune femme de Julian Lopez. Ma mère était une belle jeune femme, l'insipide et limpide. Je vais poursuivre ce paragraphe du début. Ma mère était une belle jeune femme, elle avait la peau blanche et diaphane. Je pourrais presque m'aventurer à dire bleutée, un éclat qui la rendait unique et d'une aristocratie naturelle. éloignée de toute trivialité mondaine. Elle avait les cheveux noirs. Bien sûr, j'ai déjà dit que c'était une belle jeune femme. Des cheveux raides, mais épais, et avec un mouvement comme je crois n'en avoir jamais vu. Je ne parle pas de sa coiffure. Quelle que fût la manière dont elle l'ordonnait, sa chevelure tombait gracieusement et semblait avoir été savamment coupée. Je parle de la ligne de sa crinière, du dessin linéaire de cet océan d'antennes flexibles qui délimitait la peau de son visage, parfaitement symétrique et soulignant le contraste avec son teint opulente dans chacun de ses hologrammes tubulaires. Elle dessinait un cœur subtil à l'entame du crâne, marqué d'une légère concavité sur les tempes gracieuses. Elle avait une manière extraordinairement sensuelle d'être pour elle-même, et bien sûr j'étais là, moi, avec mes 7 ans, pour moi aussi. Nous allons connaître l'histoire de cette mère et de son petit garçon de 7 ans. En revanche, nous ignorerons leur prénom, pas plus que nous ne saurons si le père du garçon existe. Étrange roman. Nous sommes en Argentine, à Buenos Aires, en 1976, l'année de transition entre le régime péroniste d'Isabel et la prise de pouvoir par la junte militaire. La tension politique, bien qu'elle ne soit pas expressément décrite, est présente et quelque peu palpable à travers le récit. S'agit-il d'un récit d'ailleurs ? Par la mise en scène de l'ambiance à Buenos Aires, la préparation de la fête de Noël par exemple, et la présence de personnages secondaires mais significatifs qui structurent l'histoire, oui, on pourrait penser. Elvira, la voisine et amie de la mère à qui elle prête volontiers son téléphone, et puis Rodolfo, l'oncle mystérieux qui apparaît de temps à autre. Il intrigue ce Rodolfo. Mais il reste très attentif au bien-être de son neveu avec qui il lui arrive de jouer. Quelle est la position de ce tonton à éclipse dans le couple mère-fils ? Est-il l'amant de la belle jeune femme, le père du garçon ? Nous ne le saurons jamais. Sans doute, cela n'est-il pas le plus important. Il a surtout l'adoration que le garçon voue à sa mère. C'est une relation quasi fusionnelle, mais dans laquelle chacun garde une certaine distance vis-à-vis de l'autre. Il y a des élans de l'un vers l'autre, mais vite réfrénés comme si... Il y a de l'amour entre ces deux-là, incontestablement, et peut-être aussi du questionnement, cela transparaît. J'allais écrire « transpire », pourquoi pas, et de l'érotisme, de bon aloi, dans des termes employés par le garçon quand il décrit cette belle jeune femme, ses cheveux, ses yeux, sa carnation bleutée, etc. Juan López, qui est un poète, animateur d'un club de lecture à Buenos Aires, a la quarantaine quand il écrit ce premier roman. On sent un décalage certain entre le temps du récit et les événements qui lui ont donné naissance. Ces événements ont un caractère dramatique. Enfin, on pense, non seulement, sont seulement finement suggérés, on les suppose, on les suppute. Impressionniste. Et la fin, on n'en saura pas plus. Elvira finit en maison de retraite. Le garçon a grandi. Il a dû trouver une vraie, très belle jeune femme, Fabiana. Il reste une coloration très nostalgique dans ce texte que l'on ressent sans pouvoir vraiment l'expliquer une fois la dernière page tournée. Un très beau texte que je recommande de lire. Deux mots sur l'écriture. Bon, c'est une écriture classique. On a une impression de plénitude, de calme qui couvre cependant quelque chose d'inquiétant, de dramatique, je l'ai dit tout à l'heure. Et des allusions aussi... au pays, enfin, des couleurs, de la couleur locale, allusion au tango, à la milonga, ces choses-là. Difficile de parler vraiment d'un roman comme ça. Bon, on pourrait effectivement en lire plusieurs extraits. J'ai préféré vous laisser la surprise quand vous lirez ce livre. Voilà. Je vous redonne le titre. Une très belle jeune femme, Juliane Lopez, chez Christian Bourgois, 2016. Vient de sortir.
Mmh. d'après une histoire vraie par Delphine de Vigan, parue chez Lattès en 2015, disponible en livre audio également. La romancière est née en 1966 à Boulogne-Billancourt. Elle est mère de deux enfants et elle est déjà venue à Manosque dans le cadre des correspondances. Elle est l'auteur de 8 romans, des romans qu'on connaît quand même, Les heures souterraines, Rien ne s'oppose à la nuit, Nos et moi, enfin pour citer que ceux-ci. D'après une histoire vraie, donc ce livre que je vais vous parler, a obtenu le prix Renaudot. C'est un roman à suspense, moi je dirais même un thriller psychologique qu'on ne lâche pas. On progresse sur un fil tendu entre le réel et la fiction. La romancière est victime de la page blanche. Elle ne parvient plus à écrire, même des courriers administratifs, plus rien. Pendant presque 3 années, je n'ai pas écrit une ligne. Je n'ai pas écrit une lettre administrative, pas un carton de remerciement, pas une carte postale de vacances, pas une ligne de course, une liste de courses. Pas une ligne, pas un mot. La vue d'un bloc, d'un carnet, d'une fiche Bristol me donnait mal au cœur. Plus tard, j'étais prise de panique dès que j'ouvrais un document Word. Et puis, je restais là, immobile, des heures durant, les yeux rivés sur l'écran. Plus tard encore, mes mains se sont mises à trembler dès que je les approchais du clavier. J'ai refusé, sans distinction, toutes les propositions qui m'ont été adressées, articles, nouvelles de l'été, préfaces et autres participations à des ouvrages collectifs. Le simple mot « écrire » dans une lettre ou un message suffisait à me nouer l'estomac. Écrire, je ne pouvais plus. Écrire, c'était non. Avec mes proches, il m'est sans doute arrivé d'évoquer la peur. Je ne me souviens pas d'avoir parlé de terreur. C'est pourtant de terreur qu'il était question. Maintenant, je peux l'admettre. L'écriture qui m'occupait depuis si longtemps, qui avait été si profondément transformée mon existence, qui avait si profondément transformé mon existence et m'était si précieuse, me terrorisait. Delphine, dans le roman, se pose la question qu'écrire après mon dernier livre, Rien ne s'oppose à la nuit, qui avait remporté un immense et fulgurant succès. Donc ce livre-ci est un peu une réponse à la demande du public et des lecteurs qui recherchent le vrai, le fait divers. Donc ici, la rencontre avec elle, majuscule, qui est une femme très belle, lumineuse, va devenir un véritable cauchemar. Elle, si mise dans la vie privée de Delphine, s'accapare du quotidien, de son intimité, de manière insidieuse, sournoise, envahissante. Sous l'apparence de l'amitié, de l'affection, de la gentillesse, et par petites touches, elle va prendre possession de son appartement, de son ordinateur, de ses pensées, bref, de sa vie. Delphine se laisse dévorer par sa nouvelle amie. Elle fait le vide autour d'elle, plus d'amis, plus de relations. Et les deux extraits que je vais vous lire montrent l'état où se trouve l'auteur. En apparence, elle me portait, me soutenait, me protégeait. Mais en réalité, elle absorbait mon énergie. Elle captait mon pouls, ma tension. Et ce goût pour la fantaisie qui pourtant ne m'avait jamais fait défaut. Alors qu'en face d'elle, je me vidais de toute substance. Elle passait des heures à travailler, entrait et sortait, prenait le métro, préparait la cuisine. Quand je l'observais, il me semblait parfois me voir, moi, ou plutôt un double de moi-même, réinventé, plus fort, plus puissant, chargé d'électricité positive. Et bientôt, il ne resterait de moi qu'une peau morte, desséchée, une enveloppe vide. Parfois, oui, il m'est venu à l'esprit que elle pouvait être mêlée de près ou de loin à cet état. Pendant tout ce temps, elle s'était arrangée pour ne croiser personne de mon entourage. Et j'avais été une complice hors pair. Je ne l'avais pas présentée à mes enfants, ni à François, ni à mes amis. J'avais vécu avec elle une relation exclusive, sans témoin. J'étais allée avec elle dans des endroits bondés où il n'y avait aucune raison que l'on se souvienne de nous. Elle n'avait commis aucun crime qui nécessite une recherche d'indices ou d'ADN. Et s'il me venait à l'idée d'expliquer dans un commissariat, 6 mois après les faits, que les somnifères et la mort aux rats que l'on avait retrouvés dans mon sang m'avaient été administrés à mon insu, on m'aurait prise pour une folle. Donc, c'est un roman envoûtant, captivant, qui se lit un peu comme un policier. Il est bien structuré, bien rythmé et d'une belle écriture. Je vous le recommande vivement. C'était « D'après une histoire vraie » de Delphine de Vigan.
Du bon Dieu de Erskine Caldwell, roman traduit de l'anglais par Maurice Coindreau, publié en 1933 aux États-Unis et en 1936 aux éditions Gallimard en France, et cette nouvelle édition maintenant de 2011. Un planteur de coton appelé Tai Tai croit fermement qu'il y a un filon d'or sur son terrain, où il vit avec 2 de ses fils, dont l'un est marié avec une femme ravissante, une de ses filles un peu nymphomane et ses 2 nègres. Depuis 15 ans, il creuse d'énormes trous à la recherche de l'or. Il réserve un petit arpent pour le bon Dieu, mais il le déplace de temps en temps quand il croit que c'est là qu'il trouvera l'or. Il y a aussi Pluto, l'amoureux de sa fille, qui est bien naïf et docile. Comme Tai Tai ne récolte plus assez de coton pour faire vivre sa famille, il va même jusque chez son 3e fils, qui est devenu riche, pour lui demander une aide financière en attendant qu'il trouve son or. Tout cela ne se passe pas trop bien. Et il enverra sa fille avec son amoureux chercher sa 3e fille Rosamond et son mari Will pour que ce dernier l'aide aussi à creuser. Celui-ci est en grève dans une filature à ce moment-là, donc ça l'arrange. Quand les hommes de la famille ne creusent pas, ils ne pensent qu'au sexe. Surtout qu'ils sont entourés de très belles femmes et qu'ils ne semblent pas respecter une certaine morale. Il se passe une scène incroyablement drôle quand Darling Jill, la fille qui vit chez son père et qui va chercher sa sœur et son beau-frère, pendant que sa sœur va faire une course, elle fait des avances à Will, le beau-frère, qui bien sûr en profite, mais sa femme revient plus tôt que prévu et les découvre en plein délit. Je vais vous lire un extrait de cette scène. Oh là là, pardon, voilà, j'arrive. Alors, la belle-sœur qui arrive, Rosamond sembla disposée à reprendre sa brosse pour leur appliquer à tous 2 de nouvelles ampoules. Mais elle se ravisa et courut vers la commode près du coin où Pluto s'était réfugié. D'une secousse, elle ouvrit le tiroir d'en haut et en tira un petit revolver à crosse de nacre. Elle se précipita vers le lit en visant droit devant elle. « Pour l'amour de Dieu, Rosamond !» hurla Will. « Rosamond, mon petit, ne fais pas ça !» Darling Jill leva les yeux de dessus l'oreiller, juste à temps pour voir le chien se relever avec un déclic. Will s'assit sur le lit en s'abritant derrière un oreiller. « Des ampoules ?» ça ne dure pas. Tandis que si je te tue, tu resteras mort pour un bon moment. Will Thompson. Rosamond pressa la détente et la chambre s'emplit de fumée blanche. Elle avait visé les pieds de Will, mais elle avait manqué le but. Will bondit sur Rosamond, une main tendue pour s'emparer du revolver. Rosamond tira de nouveau. La balle passa entre les jambes de Will, qui pensa mourir de peur. Il baissa les yeux pour voir s'il avait été blessé, mais il ne prit pas le temps de regarder bien soigneusement. Il courut à la fenêtre et, sautant dehors, retomba à quatre pattes. Une seconde après avoir touché le sol, il était déjà relevé et disparaissait au coin de la maison. La femme dans la maison jaune, à côté, s'élança à la fenêtre et passa la tête. Elle aperçut Will qui courait tout nu à travers la cour et enfilait la rue ventre à terre. Quand il eut disparu, elle se tourna et regarda Rosamond qui était à la fenêtre, le revolver à crosse de nacre, tout tremblant dans sa main. « Est-ce que c'est Will Thompson ?» demanda la femme. « De quel côté est-il allé ?» demanda Rosamond. « Il a descendu la rue, par là-bas, » dit la femme, incapable de s'empêcher de rire plus longtemps. « Ça n'était pas encore vu, ça, Will Thompson, chassé de chez lui à coups de revolver. Faudra que je dise ça à Charlie, il en crèvera de rire. » Et Will Thompson était nu comme un ver, par-dessus le marché. En voilà une affaire. Rosamond retourna mettre le revolver dans le tiroir qu'elle ferma. Puis elle s'assit sur une chaise et se mit à pleurer. J'ai trouvé que c'était une histoire drôle, pathétique et captivante. Je pensais aussi qu'elle ferait un bon film. Et en cherchant, j'ai en effet trouvé qu'un film en avait été fait en 1958 par Anthony Mann. Je recommande vivement ce classique américain des années 30. C'était donc « Le petit arpent du bon Dieu » de Erskine Caldwell aux éditions Gallimard, collection Folio 2011.
Alors, nous allons vous présenter le dernier livre de Pierre Ducrozet, Héroïka, qui en fait porte sur la vie de Jean-Michel Basquiat, le peintre-graffeur des années 80. On le suit dans les bars, les galeries d'art, les rues de New York en ébullition de ces années-là. On y croise Andy Warhol, son idole, Madonna entre autres, Kate Harting, mais surtout Andy Warhol.
Andy a vécu. Il est dans une forme splendide, mais ce qu'il reste de ses sourcils tombe un peu. C'est une vieille chouette qui déplace avec indifférence et génie sa mèche blanche dans tous les salons de la ville. Il n'est pas mondain pour autant, il marche tout simplement. Si les gens ont toujours gravité autour de lui, ce n'est pas de sa faute, lui ne fait que marcher. Il aime aussi les écouter parler, il goûte leur fadaise, il détaille leurs paupières et leurs rides, il attrape une mimique. Pour ce faire, un ravalement de façade quotidien, épilation, entretien de perruque, crème, léger fond de teint est malgré tout nécessaire.
Il observe G assis. G, c'est Jean-Michel Basquiat. Les jambes croisées devant lui, il pense à son pénis. Il a vu quelquefois, saillant sous son jean, il ne peut penser à rien d'autre. Pour autant, le sexe le dégoûte. Il n'a jamais vraiment essayé. Un sexe sent extrêmement mauvais et la petite affaire est d'un ennui à crever. Pourquoi tant bouger ? Il préfère regarder. Jay se tourne vers la fenêtre. Son visage est d'une grande pureté, pense Andy. Parfait. Absolument parfait. Il n'y a que ses taches. Il faudrait que je lui parle de ses taches. C'est sans doute le sida.
C'est quoi ces taches ?
Il me répond n'importe quoi, depuis l'enfance, un truc comme ça. Pensez à ne jamais manger dans la même assiette que lui. Je ne sais pas comment, mais il est toujours parfaitement élégant. Et tout ça avec des fringues de pauvre, parce que même riche, ça reste un pauvre, comme moi.
Ils se sont assis au bord de l'Hudson River. Je ne m'assois jamais sur un banc public, je le fais pour toi.
Un immense cargo remonte le quai de Meatpacking, devant une tête blanche et crue d'albinos et une auréole noire de dread, ceinte d'un ruban orange.
On dirait un couple de gays, sur un banc comme ça, dit Andy. Faut qu'on fasse gaffe.
Ou un père avec son fils en promenade dominicale, si seulement t'étais moins blanc.
Oui, c'est vrai que je suis extrêmement blanc.
Le cargo passe dans un sillage crème. Ils observent plutôt les passants, joggeurs ou flâneurs.
Andy, je veux être une légende.
Oh, c'est facile. Meurs.
Tout de suite?
Ah oui, quand tu veux. Le plus tôt sera le mieux. Les prix de tes toiles flamberont et tu seras un héros. C'est un investissement sur l'avenir.
Jay tire sur sa clope.
Moi, par exemple, je ne suis pas assez mort. J'ai failli y passer, mais ça ne suffit pas. Les gens n'ont vraiment du respect que pour ceux qui ont franchi avec succès la dernière épreuve, qui est aussi la plus terrible, te disent-ils en serrant les dents. Avec ça, on gagne le respect. Moi, je suis allée jusqu'au bord et je suis revenue. Je suis une poule mouillée. Résultat ? Mon Elvis bleu et vert s'est vendu à 21 000 dollars le mois dernier. 21 000 dollars, merde !
Je vais jusqu'aux limites et j'ai l'impression que les gens me respectent pour ça.
Oui, la drogue fait cet effet sur les gens. Ça les impressionne. Ils osent, pas eux. Tu peux toujours faire une overdose, c'est la gloire assurée. Mais bon, tu peux aussi décider de vivre, c'est parfois agréable. Et en fait, Jean-Michel Basquiat donc, va marquer sa génération. Comme nous le dit Pierre Ducrozet, c'est le dernier jeton de la matière. Il met les mains droit dans la couleur. Ce que personne ne comprend plus, il est l'enfant de Van Gogh, de Matisse, de Picasso. C'est aussi l'enfant de Musset pour notre auteur, de Rimbaud, d'Hendrix. Il est né des rêves d'une autre époque. Il est l'enfant des beats et du rock. Il gicle directement de Lou Reed et de Kerouac, lancé à toute blinde sur des chemins en pente. Et en effet, chemin en pente, oui, parce qu'en effet, il va mourir d'une overdose. Ses toiles, pourtant, se vendent très très bien. Hein. Ce n'est pas ça le problème, mais il a un grand creux, un grand vide en lui. On lui a enlevé la rate, comme Andy Warhol d'ailleurs. Et ce vide, seule la force créatrice peut le combler, mais jusqu'au jour où c'est la drogue qui va prendre le dessus, et tellement le dessus qu'elle va le tuer. Donc c'est un livre qui nous a énormément plu. Il y a plusieurs aspects qu'on ne peut pas, vu l'heure, vous traiter. Et c'est vraiment des trois livres de Pierre Ducrozet, je crois, celui sur lequel on a tous eu un coup de cœur. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc on vous recommande Héroïka de Pierre Ducrozet. On va vous faire quelques annonces. Alors... Déjà, en ce qui concerne une exposition dont l'inauguration a lieu ce soir à 17h30, où tout le monde est bien sûr invité.
À la bibliothèque de Manosque.
Voilà, une exposition de Chantal Giraud, Le soleil ne se couche pas, où mêlent des grands formats, des très beaux tableaux, un travail sur le verre, des livres d'artistes et des livres pauvres. C'est Daniel Lauer qui est un des participants à cette exposition qui a inventé ce concept. Ce sont des livres qui ne passent jamais par le circuit commercial, qui ne sont pas édités, on ne peut pas dire qu'ils sont édités, hein, qui sont faits par un artiste, par un poète, en très petit nombre, 4, 5 ou 6, et ne peuvent être vus finalement qu'en exposition, car jamais ils ne seront diffusés en librairie. Nous allons avoir... Suite à cette exposition, plusieurs choses auxquelles on vous invite, qui sont gratuites. Une rencontre donc avec c'est en même temps Daniel Lowers, qui est en même temps un poète, un universitaire, il a enseigné aux États-Unis, en France, et donc une rencontre le 7 avril à 17h30, autour de ses livres pauvres qu'il a fabriqués avec Chantal Giraud. Puis, nous aurons samedi 9 avril, de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h, un atelier animé par Philippe Moreau, qui est en fait un typographe à l'ancienne, qui va venir avec tout son matériel. Et vous pourrez donc participer à cet atelier, donc à faire des impressions sur avec des plombs, enfin à l'ancienne, comme du temps de Gutenberg. Et mardi, le 29 mars, donc bientôt, nous aurons une visite commentée par Claire Zara, qui est la nouvelle directrice, à 17h30, et vous y êtes aussi tous conviés.
D'autre part, en ce qui concerne nos animations du comité de lecture, le mardi 19 avril, donc troisième mardi du mois d'avril, aura lieu le comité de lecture, comme toujours, à 18h à la médiathèque, suivi du jeudi 21 à 15h par l'émission en direct sur fréquence Mistral des lecteurs sous les toits. Aujourd'hui, nous vous avons présenté, d'après une histoire vraie, alors je vais faire dans l'ordre, Requiem pour Lola Rouge de Pierre Ducrozet, Assaïra de Denis Lachaud, La vie qu'on voulait de Pierre Ducrozet, Une très belle jeune femme de Julianne Lopez, D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, Le petit arpent du bon Dieu d'Erskine Caldwell et Héroïka encore de Pierre Ducrozet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.